Mes amis, si vous saviez à vous tous, nous aimerions tellement que chacune de ces journées laisse une empreinte ineffaçable dans vos vies et que vous puissiez, en vous souvenant du 31 juillet, dire, eh bien, ce jour-là, le Seigneur m'a parlé. J'ai compris quelque chose que je n'avais pas encore saisi. Le 1er août, il est allé plus loin. Le 2, j'ai fait quelques progrès dans cette connaissance qui libère. Il en fut de même le 3. Mais ce 4 août, qui est aujourd'hui notre soirée, j'ai reçu la bénédiction que j'attendais depuis si longtemps. Et mon âme maintenant est réellement libéré. Je sais ce que c'est que vivre dans la présence de Dieu. Et de vivre dans la présence de Dieu sans crainte, sans effroi, dans une joie totale, parfaite. Parce que je sais que Dieu, le juge, de toute la terre, Dieu me reçoit devant son trône. Comme il a reçu son Fils bien-aimé, il ne fait pas de différence. Je suis reçu dans ce lieu de lumière et d'amour, comme son Fils a été reçu. Oui, il devait être le premier entre plusieurs frères. Mais Jésus devait avoir des frères. Et nous le sommes devenus. Et si nous sommes maintenant ses frères, ses sœurs, s'il n'a pas honte de nous appeler les membres de sa famille, les membres de son corps, combien nous devrions être joyeux. C'est cela qui est vrai. Quand vous vous regardez et que vous voyez toute votre misère, savez-vous où vous devez regarder? À la croix. Votre misère, c'est là qu'elle, a, qu'elle est. Vous avez pris fin. Cette vie que vous constatez, elle a pris fin à la croix. Et si vous voulez savoir ce que vous êtes, comment Dieu vous voit tous les jours, quelle que soit votre condition et votre état d'âme, Dieu vous voit tous les jours dans la perfection de son Fils bien-aimé, qui se tient debout pour vous devant la face de Dieu. Vous n'êtes plus centré sur vous-même. Vous êtes centré sur le Christ. Le thème de ce soir sera le dessein du Père, le dessein de Dieu pour nous, son dessein éternel, la raison pour laquelle il a voulu nous créer. Il avait un Fils bien-aimé, en qui, de toute éternité, il trouvait son plaisir. Il a voulu d'autres fils. Il a voulu peupler son ciel de gloire. En vous amenant à être semblable à son bien-aimé. Et c'est cela son destin. Et c'est cela qui s'accomplira, qui se réalisera d'une façon parfaite, malgré tout ce que nous pouvons constater de nous-mêmes. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand lui sera manifesté, nous le serons aussi avec lui en gloire. Nous lui serons semblables. Nous le verrons tel qu'il est. Eh bien, apprenez à le contempler dès aujourd'hui. À le contempler dès aujourd'hui, comme nous l'enseigne l'apôtre Paul. Nous tous, qui contemplons à visage découvert la gloire du Seigneur. Ah, c'est cela qui doit vous occuper. C'est pas votre misère. Finissez-en de contempler votre misère. Vous l'avez reconnu, votre misère? Avez-vous compris que vous étiez des misérables? Avez-vous dit, oui, c'est vrai, je suis un misérable? Eh bien, si vous l'avez dit, toute la miséricorde de Dieu s'est approchée de vous. La miséricorde de Dieu, elle est pour les misérables. Il nous a fait miséricorde. Il est miséricordieux. Et alors maintenant, ce n'est plus notre misère que nous regardons. Elle est passée aux yeux de Dieu, notre misère. Et votre conscience doit être purifiée de toutes vos œuvres mortes, de tout ce que vous avez essayé de faire, de tous vos ratages. Il y en a eu dans notre vie des ratages. Nous avons, spirituellement, nous avons voulu faire quelque chose qui a raté. Nous ne sommes pas arrivés. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous demandait pas cela. Il nous avait même averti que nous ne pouvions pas, puis nous avons voulu quand même. Nous avons cru que nous pouvions. Détournez les yeux de vous-même. Contemplez le Seigneur dans sa gloire. Et alors, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, nous tous qui contemplons à visage découvert la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Non pas nous nous transformons petit à petit, mais nous sommes transformés. Ce n'est pas notre œuvre, c'est son œuvre. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Alors regardons-le lui, ayons nos yeux fixés sur lui. C'est lui que nous voulons contempler, c'est lui notre but. Et nous voulons courir cette course, fixant les yeux sur Jésus. Oublions notre péché qui nous enveloppe si facilement, rejetons ce péché, rejetons tout fardeau. Nous courons cette course avec joie. Tu m'as fait connaître. Le chemin de la vie, le chemin de la vie, le chemin de la bénédiction, c'est ce chemin. Il n'y a qu'un chemin. Mais ce chemin qui est Jésus, c'est un chemin qui nous conduit où? Au Père. Et alors il nous faut arriver au Père. Il nous faut arriver dans le cœur du Père pour que réellement vous sachiez quelle est votre position désormais. Une position sûre. Vous êtes dans le cœur du Père. Comme Jésus lui-même s'y trouvait. Vivre dans la présence de Dieu. Oui, c'est tout simplement vivre en Christ. Nous l'avons vu dans notre première soirée. Vivre en celui dont le Père disait: tu es mon fils, bien-aimé, en qui je trouve tout mon plaisir. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs fautes, Pourquoi est-ce que vous fiez toujours un complexe de culpabilité? Dieu ne vous impute pas vos fautes, quelles qu'elles soient. Il n'a pas imputé aux hommes leurs fautes, mais celui qui était sans péché, qui est Jésus, il l'a fait péché pour nous. Quand vous regardez votre misère, quand vous vous voyez comme cela et que vous êtes découragé, regardez à la croix. C'est là que vous êtes cloué à la croix. Et même. Et même, vous ne vous verrez plus sur la croix. Vous avez été crucifié avec Christ, mais le Christ est resté sur la croix. Il a été enseveli. Alors vous aussi, vous avez été enseveli avec lui. C'est la parole de Dieu qui nous dit cela. La croix est vide, c'est passé, vous êtes enseveli avec lui. Mais le Christ n'est pas resté dans le tombeau, vous savez que le tombeau est vide. Il est ressuscité, et par sa résurrection, vous avez pu enfin naître à une vie nouvelle. Une vie qui sort de cette mort de Jésus, qui est votre mort. C'est par la mort du Christ que nous avons la vie, la vraie vie, c'est par sa mort. C'est pas par sa vie que nous sommes sauvés, c'est par la mort de Jésus. Sa vie nous a manifesté ce que Dieu pouvait attendre d'un homme. Et Dieu a déclaré que cet homme, Jésus, lui donner une satisfaction pleine en toutes choses. Et c'est en lui maintenant que vous êtes aussi agréable aux yeux de Dieu. Vous êtes aussi agréable aux yeux de Dieu que son fils ne l'était lui-même. Vous allez dire, mais enfin, n'allez pas trop fort. N'allez pas trop fort. Je ne dépasse pas ce que dit la parole, mais cette parole, nous n'osons pas la croire. C'est tellement bouleversant. Mais c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu vous a tant aimé, non pas pour que vous ayez l'espérance de la vie éternelle, pour le jour où vous mourrez. Dieu vous a tant aimé, non pas pour que vous n'alliez pas en enfer. Dieu vous a tant aimé parce qu'il vous voulait pour lui. Il vous a racheté. Et maintenant, alors, comprenez sa pensée à votre égard. Ce qu'il voudrait que vous réalisiez maintenant de son amour, parce que c'est l'amour qui nous transforme. C'est vrai, hein, c'est l'amour qui nous transforme. L'amour nous transforme. Eh bien, si le Saint-Esprit veut nous révéler ce soir l'amour de Dieu, nous serons transformés et nous demeurerons dans cet amour. Jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'au retour du Seigneur. Je veux vivre dans cet amour. Je vais plonger dans cet amour. Mon Sauveur n'est pas mort pour que je sois un chrétien et qui vit dans la médiocrité et qui ne fait que de se plaindre et qui ne fait que constater ses chutes et ses rechutes. Un chrétien découragé. Et c'est pour cela que le Christ a tout souffert, pour que vous, vous continuez à vivre dans la souffrance, dans le regret stérile. Ce n'est pas cela le salut. Le si grand salut de Dieu vous apporte paix, foi, mais aussi la pensée du Père qui désire vous voir vivre à sa gloire. Est-ce que nous croyons ces choses? Je vous ai posé la question hier soir. Avez-vous la foi? Croyez-vous cette parole de Dieu? Est-ce que vous êtes conscient d'être béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ? Où êtes-vous ce soir? Assis dans l'homme? Ou dans la présence du Père? Dans la présence de Dieu? Du Dieu qui vous aime et qui vous dit: je t'aime comme j'ai aimé mon fils. Tu m'es aussi précieux que mon fils m'est précieux. C'est fantastique. Tu m'es aussi précieux que mon fils m'est précieux. Est-ce que tu ne le comprends pas? Tu crois que je l'aurais laissé mourir si je ne te désirais pas? J'ai laissé mon fils donner sa vie pour que je t'aie, toi, pour mon enfant. Je te voulais, toi, pour mon enfant et pour mon enfant bien-aimé. Et je veux pouvoir dire que je mets aussi en toi maintenant tout mon plaisir, comme je l'ai mis dans mon fils. Dieu trouvant son plaisir en vous. Pensez-vous pas que cela doit être formidable? Le Dieu qui est le bonheur même, ce Dieu vient habiter dans nos cœurs, comme nous l'avons lu hier. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Qui est-ce qui vous habite? C'est pas une idée, c'est pas une doctrine. C'est la personne de Dieu, le Dieu unique, manifesté comme Père, comme Fils et comme Saint-Esprit. Prenons possession de notre être tout entier, de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Et alors, évidemment, quand on comprend cela, on saisit aussi qu'on ne s'appartient plus à soi-même. Nous ne sommes plus à nous-mêmes, c'est fini ça. Nous ne sommes plus à nous-mêmes. À qui appartenons-nous? À celui qui pour nous est mort et ressuscité. Et nos membres, ces membres que nous employons si souvent pour le péché, ces membres, nous les avons livrés à Dieu. Livrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Livrez vos corps. Voyez-vous, le christianisme, c'est pas une religion de l'âme seulement. C'est une religion du corps. Et quand je dis religion, je parle simplement de la relation que l'on a avec Dieu, selon le sens profond de ce mot. C'est être en relation avec Dieu. Et maintenant, Dieu dispose aussi de nos corps. Et il va employer nos yeux, nos oreilles, nos lèvres, notre cœur, nos mains, nos pieds, pour accomplir ses desseins dans ce monde. L'incarnation du Christ, elle se continue en vous. Elle se continue en vous. Nous lisons, mes bien-aimés, maintenant, dans le chapitre 8 des Romains. Ces versets qui vont nous révéler le destin du Père. Depuis le verset 28e, je soulignerai déjà le verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que dans cette soirée du 4 août, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a plus de condamnation? Si vous n'en êtes pas sûr, quelle est la raison de votre incertitude? c'est que vous regardez à vous-même. Si vous pensez que je mérite d'être condamné. Il n'y a plus de condamnation. Donc vous supprimez l'œuvre du Christ. C'est la pire des offenses. Donc Jésus-Christ est mort pour rien. Il est mort, il a été condamné pour que vous, vous ne soyez plus condamné. Il a été frappé pour que vous ne soyez plus frappé. Il a été chargé pour que vous ne soyez plus chargé. Pour que vous soyez libéré. D'une façon complète et d'une façon totale. Alors, plus de condamnation. Vous ne revenez plus sur cette question. Puis, c'est pas parce que vous étiez des saints que vous ne serez pas condamnés. C'est parce que vous avez accepté le sauveur des pécheurs. C'est parce que vous avez reconnu votre péché. Dieu vous a fait grâce. Il vous a fait grâce. Et la grâce, eh bien, il n'y a que les condamnés qui connaissent ce que c'est que la grâce. Les condamnés soupirent après la grâce, espèrent encore en la grâce. Nous étions tous condamnés, mais Dieu, dans son amour, nous a fait grâce. Alors, plus de condamnation. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et maintenant, nous passons au verset 26. Nous savons du reste que toutes choses n'ont pas simplement concours, mais travaillent littéralement, travaillent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Est-ce que j'ai été trop loin tout à l'heure? Est-ce que vous ne connaissiez pas ce verset? Et il y a des frères de Jésus-Christ. Et quand je dis frères, ça comprend les sœurs. C'est ça qui est merveilleux. C'est tellement grand, c'est tellement beau, qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. Mais les frères, ils ont la même nature. Alors, quelle est votre nature maintenant? Celle d'Adam? Vous l'aviez à votre naissance, celle d'Adam. Vous êtes né de la chair avec la nature d'Adam. Mais où a-t-elle été placée, votre nature adamique? À la croix. Elle a pris fin à la croix. Vous avez été crucifié avec Christ. Vous êtes mort. Vous êtes enterré. Et vous êtes remonté du cimetière. C'est fantastique, ça. Vous avez une vie nouvelle. Une vie qui n'est pas autre que celle de Christ. Vous vivez de sa vie. Vous vivez de la vie d'un autre. Plus exactement, c'est lui qui vit en vous, sa vie, et qui réalise le dessein de Dieu. Laissez-le réaliser maintenant le dessein de Dieu. Lisez l'Évangile et en voyant la vie de Jésus, contemplez votre vie. C'est cela qui est tonique. Quand vous lisez la vie de Jésus dans l'Évangile, c'est votre vie qui vous est dépeinte. Comprenez-vous? C'est votre propre vie. Alors de plus en plus, vous aurez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous aurez les expressions de Jésus-Christ. Vous serez imprégné dans votre pensée de Jésus-Christ. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est comme si c'était déjà fait. Même la glorification. Et quand est-ce que Dieu a arrêté ce dessein de nous amener à être conformes à l'image de son Fils? Je vous rappelle un texte que nous avons lu dans les Éphésiens, au chapitre 1er, et qui nous disait, au verset 4, « En Dieu, en lui, dans le Seigneur, Dieu nous a élus, quand ? Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné, quand ? Dès avant la fondation du monde, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé, cette grâce, elle nous est accordée en qui ? En son bien-aimé. En lui, donc dans ce bien-aimé, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon les richesses de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Quand ? Quand est-ce que ce dessein a été formé en Dieu ? Avant la fondation du monde. Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Bien, mes amis, voilà le dessein du Père, le dessein éternel. Et je voudrais simplement souligner les grandes étapes. Avant l'existence du premier atome de ce monde, de la première poussière de la terre, vous avez existé, vous, dans la pensée de Dieu. Vous avez eu une place. Qui que vous soyez ici, vous avez eu une place dans la pensée de Dieu. Avant la fondation du monde, vous existiez dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas vous qui vous êtes fait naître. Avant la fondation du monde, Dieu vous avait donné une place dans sa pensée. Vous existiez dans sa pensée. Et Dieu est Dieu. Et ce qu'il pense, il le réalise et il l'accomplit envers et contre tout. Et alors, quand Dieu a décidé de vous amener à l'existence, qu'est-ce qu'il voulait pour vous ? Bien, il a décidé, dès avant la fondation du monde, que ceux qu'il amenait ainsi à l'existence, il les prédestinait à être semblables à qui ? À son Fils bien-aimé. Son Fils éternel, ce Fils incréé, cette parole qui était avec Dieu, qui était auprès de Dieu, qui était Dieu. Voilà ce que Dieu a décidé, que vous, vous seriez semblables à son Fils, les frères de son Fils bien-aimé. Voilà ce que Dieu a décidé. C'est cela qui doit rester dans vos cœurs. L'histoire de la chute, c'est un accident. On a tout axé sur la chute. Et pour beaucoup de chrétiens, eh bien leur histoire à eux, elle commence à la chute. Ils n'ont rien connu vraiment d'Éden. Elle commence hors d'Éden, dans la descendance d'Adam. Voilà l'histoire. Votre histoire commence là. Et alors tout est axé sur la rédemption. Je ne veux pas minimiser la rédemption. Nous allons voir cela plus tard. Mais ce que je voudrais vous faire saisir, c'est qu'avant la rédemption, il y avait votre prédestination à quoi ? À la gloire. Et c'est cela qui devait s'accomplir, se réaliser. La chute n'était pas une nécessité. Ce n'était pas nécessaire que l'homme tombe. Il aurait pu parvenir à cette gloire à laquelle Dieu le destinait s'il avait simplement obéi au commandement du Seigneur. S'abstenant de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui lui était défendu, et s'appropriant le fruit de quel arbre ? Qui lui était pas défendu ? L'arbre de vie. Si l'homme avait été se nourrir à l'arbre de vie, il n'aurait pas connu et la souffrance et la mort. Et Dieu lui avait mis cette possibilité de se nourrir de l'arbre de vie. Mais, hélas, l'homme a fait un mauvais choix et il suit le chemin qu'il a lui-même décidé de prendre et où il fait l'expérience de sa faiblesse, de sa misère. Mais ce n'était pas cela que Dieu voulait pour lui. Dieu ne voulait pas sa mort. Dieu n'a jamais voulu la mort de sa créature. Souvenez-vous de son dessein initial. Et est-ce que vous pensez que la décision de l'homme, puisqu'on parle toujours des décisions de l'homme, quand il a dû prendre une décision, quelle décision est-ce qu'il a pris ? La décision de se perdre. Puis maintenant, on voudrait vous faire prendre la décision de vous sauver. La seule décision que l'homme a pu prendre, c'était de se perdre. Alors, il n'est pas question de ça. Il est question que Dieu avait décidé quelque chose. Et qu'est-ce qu'il avait décidé ? Que vous seriez un jour semblable à lui. Mais le mal qu'il a fait, c'est de désobéir. C'est une désobéissance. C'est cet acte, cette transgression du commandement de Dieu. L'homme, en fond, n'avait pas à choisir. Il avait à obéir, puisqu'il était la créature de Dieu. Et par son obéissance, il manifestait qu'il était un être dépendant et que s'il voulait la bénédiction de Dieu, s'il voulait que le conseil de Dieu se réalise pour lui, il devait rester dans la dépendance de son Créateur. L'indépendance n'est l'apanage d'aucune créature. Dieu avait créé l'homme libre, justement. Mais créant un être libre, cette liberté, eh bien, comportait un risque. Au cas où l'homme faisait le mauvais choix, qu'est-ce que Dieu ferait ? Son plan était anéanti. Non. C'est pourquoi la rédemption entre en jeu. La rédemption était un plan que Dieu avait établi avant la fondation du monde aussi, pour que au cas où l'homme, créature libre, et qui pouvait justement se séparer de Dieu, parce que Dieu ne voulait pas le contraindre. Et ici encore, mes amis, si vous ne voulez pas de lui, croyez-le bien, il ne vous contraindra pas. Dieu ne vous force pas d'être ses enfants. Si vous n'en voulez pas de lui, eh bien, dites-le. Mais combien nos cœurs seraient brisés. Dieu ne vous contraint pas. il vous aime. Mais si vous voulez lui résister avec tous vos raisonnements, eh bien, vous vous excluez vous-même de son amour, de sa grâce. Et vous continuerez cette vie en dos de scie, alors que vous pourriez connaître une vie absolument différente. Donc, le plan de Dieu, le dessein de Dieu, c'était que nous soyons conformes à son image. Il n'était pas question de mal. Il lui était simplement dit de ne pas prendre ce chemin, de vouloir lui-même connaître les choses, de vouloir par lui-même parvenir à la gloire de Dieu, en faisant lui-même ses expériences sans Dieu. Et au fond, l'homme a voulu faire ses expériences sans Dieu. Il a pensé qu'étant cette créature si extraordinaire, qui était sortie des mains de Dieu, qui était supérieure même aux anges, il a pensé qu'il pouvait se passer de son Créateur. Et alors, bien, il est retombé sur lui-même. C'est ça la chute. Il est retombé sur lui-même. Et il s'est trouvé seul. Avant, il était lié à Dieu. Dieu étant lumière, amour, vie, vérité, sainteté, tant que l'homme était relié à Dieu, il avait la vie. Et il recevait de Dieu cette lumière, cette sainteté, cet amour. Mais le jour où, par sa désobéissance, il manifeste qu'il veut vivre sa vie, il se sépare de Dieu, il retombe sur lui-même. Et bien sûr, il voudrait retrouver tout cela, mais il en est incapable. Donc, il est perdu. Mais alors, puisque c'est le choix que cet homme a fait, comment est-ce que Dieu réalisera quand même son plan et arrivera à accomplir son dessein éternel? Eh bien, vous l'avez dans Pierre, cette révélation. Épître de Pierre, chapitre 1er. Verset 17. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17. Si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné, quand ? Avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur vos sentiments. Vous avez lu? Sur Dieu! Mais jusqu'à présent, sur quoi est-ce que ça repose? C'est sur Dieu que votre foi repose. Et votre espérance, c'est sur quoi? Sur vos œuvres? Sur votre état? Sur ce qu'il est et sur ce qu'il a fait. Alors voyez-vous, on reprend ces points capitaux du plan de Dieu. Avant l'existence du monde, Dieu a décidé de créer un être au bonheur duquel il travaillerait et qu'il remplirait de son amour. Un être qu'il prédestine à être semblable à l'image de son fils. Dieu veut une famille. Il ne veut pas seulement un fils. Il veut plusieurs fils. Et il ne veut pas que les fils qui viennent après son fils soient moins que son fils. Ils ne seront pas moins aimés, ils seront aimés d'un même amour. Est-ce que je vais trop loin? Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Aimé d'un même amour. Voilà le dessein de Dieu, arrêté de toute éternité. Alors, il crée le monde, il crée l'homme, mais évidemment, il aurait pu empêcher l'homme de pécher. Mais alors, l'homme n'était plus une créature libre. Tous les autres êtres sont obligés d'obéir à certaines lois, les astres aussi suivent des lois, mais l'homme... Au fond, Dieu se crée un vis-à-vis. Et s'il était libre, eh bien, l'homme pouvait dire non à Dieu. Alors, au cas où l'homme dirait non à Dieu, qu'en serait-il du dessein de Dieu? Bien, Dieu avait prévu une œuvre qui rachèterait l'homme. Mais par un chemin beaucoup plus long, cet homme serait amené, malgré tout, à la gloire de Dieu. Et par qui rachèterait-il l'homme? Par son fils. Son fils était là. Et au cas où l'homme disait non, eh bien, Dieu viendrait dans son fils pour témoigner à sa créature combien il l'avait aimé. En le créant, il l'a créé dans un acte d'amour. Mais l'homme n'a pas compris son amour. Alors Dieu a mis le comble à son amour en se donnant lui-même. Il n'a pas seulement donné, mais il s'est donné. C'est tout autre chose. Hein. À la création, Dieu a donné. À la rédemption, il s'est donné. Dieu constate l'amour qu'il a eu pour nous, des pécheurs, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. C'est la parole de Dieu. Mais l'homme donc s'est éloigné de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dû faire? Quand Dieu a voulu visiter Adam, est-ce qu'il l'a trouvé dans le jardin? Pour la première fois, Dieu a dû appeler Adam. Adam, où es-tu? Donc, ceux qu'il avait prédestinés à la gloire éternelle, il a dû les appeler. Mais, qui est-ce qu'on appelle? Quelqu'un qui est tout proche de soi? Quelqu'un qui s'est éloigné? Quelqu'un qui est perdu? On l'appelle. Eh bien, Dieu avait prévu ce moment-là, et depuis la chute, il appelle les hommes. Je suis venu non pas pour sauver des justes, mais pour sauver des pécheurs. Il est venu appeler des pécheurs. Alors, il vous appelle. Il vous appelle. Il m'a appelé. Mais quand on sort de dessous ces arbres où l'on se cache, hein, à cause de notre misère, pour paraître devant Dieu et pour vivre devant Dieu, qu'est-ce que Dieu a dû faire de ces appelés? Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et comment est-ce que ces hommes ont pu être rendus justes devant Dieu alors qu'ils étaient pécheurs? Eh bien, Dieu, qui était saint et qui ne pouvait pas passer l'éponge sur la faute de l'homme, Dieu qui avait dit que s'il mangeait du fruit de cet arbre, s'il désobéissait, il mourrait certainement, l'homme devait mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais si nous mourions, le plan de Dieu ne s'accomplissait pas. Alors, étant déjà mort spirituellement, bien Dieu a envoyé son Fils, qui était la vie même, dans ce monde, et qui lui est resté dans cette communion étroite avec son Père, malgré qu'il a passé par la tentation d'Adam, eh bien, lui reste en communion étroite, il triomphe de tout, et au fond, il vit à nouveau la vie que l'homme aurait dû avoir. Dans la vie de Jésus, vous voyez ce que l'homme aurait pu vivre, mais c'est difficile, parce que la vie de Jésus s'est manifestée dans une terre qui était maudite, dans une terre où l'homme avait péché et devait subir les conséquences du péché. Et quand il a revêtu notre corps de chair, ce corps était sans péché dans le sein de Marie, mais pourtant, c'était un corps de chair qui a été soumis à toutes les conséquences du péché, à la faim, à la soif, à la douleur, à la fatigue. Alors, Jésus nous montre la vie que Dieu voulait pour l'homme, mais même au travers de toute la souffrance. C'était pas cette vie-là que Dieu voulait pour l'homme. C'était une vie dans le bonheur, dans la joie, dans la félicité. Mais le Christ a accepté de vivre cette vie humaine. Il a, dans son amour, accepté notre humanité. Et il l'a vécu. Il l'a assumé complètement. Et cette vie, à la gloire de Dieu, bien, il nous l'a donnée. Et pour que nous soyons justifiés complètement, le Fils de Dieu a pris sur lui nos transgressions, nos péchés, et il est mort à notre place. De sorte que nous avons été rachetés par sa vie donnée. Le prix de la grâce qui vous est faite, c'est quoi? Quand on vous dit toujours que votre salut est gratuit, est-ce que c'est vrai? Il est gratuit pour vous. Mais qu'est-ce qu'il a coûté, votre salut? La vie de Jésus. Le prix de la grâce, c'est la vie de Jésus. Donc, vous devriez apprécier cette grâce. C'est la vie donnée de Jésus. Est-ce que nous contemplons la valeur de cette vie? Mais dans son amour, et c'est ça la croix, le Seigneur vous a pris. Il vous a pris, vous pécheurs, moi pécheur. Et dans sa mort, j'ai disparu. C'est ça le fait. Dans sa vie, je suis ressuscité. J'ai une vie nouvelle. Et où suis-je déjà? Dans le ciel. Nous sommes déjà des gens qui appartenons au céleste. Est-ce que nous en avons pris conscience? Mais qu'est-ce qui nous préoccupe encore? Les choses de la terre? On est sur la terre, c'est vrai. Mais notre patrie, notre bourgeoisie à nous, elle est où? Elle est dans les cieux, mais est-ce ça un effet pratique sur vous? Est-ce que c'est là votre maison? Est-ce que c'est là votre chez-vous? Mon chez-moi, c'est là-haut, peu importe ce que je perde sur la terre. On ne peut pas me ravir mon chez-moi. Ma maison, c'est la maison du Père. Là, je sais que j'ai ma place et que personne ne pourra me la ravir. J'ai cette certitude. Est-ce que vous avez ce soir, 4 août, cette certitude que le Seigneur vous a acquis une place? Je vous demande de nouveau, avez-vous la foi? Jésus disait, vous croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, et je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. C'est ça qu'il a dit. Alors, est-ce que nous croyons en lui? Est-ce que nous croyons que notre place, eh bien, il l'a préparée et qu'il l'a payée? Ma place, elle a été payée. Par quoi? Par de l'or, par de l'argent? Par son sang, par sa vie donnée. Vous n'êtes pas sauvé de rien du tout. C'est un grand salut. Et maintenant, vous devriez être absorbé par cette bonne nouvelle. Et la preuve que Dieu a accepté le sacrifice de son Fils, parce qu'il y en a qui nous disent, bien écoutez, oui, Jésus est mort. Mais enfin, comment pouvons-nous savoir que réellement Dieu a accepté cette mort? Par sa résurrection. Il est mort pour nos fautes. Ce qui a nécessité sa mort, c'était nos fautes. C'était nos péchés. Il n'est pas mort pour ses péchés, il est mort pour les vôtres. Pourquoi vous êtes toujours avec le nez sur vos péchés? Mais maintenant, vous me dites, mais on péche encore. Mais bien sûr qu'on péche encore. Mais si le Christ n'est pas mort pour vos péchés, si vous êtes toujours préoccupé de vos péchés, qu'est-ce que vous ferez encore? Vous pécherez encore. Si vous regardez le péché, eh bien vous péchez encore. Détournez les yeux de ce que vous êtes, détournez les yeux de vos faiblesses, de vos péchés, et tournez vos yeux vers celui qui est la force, qui est la vie. Parce que si vous attendez de sentir que vous avez une force, vous attendrez toujours. La force, elle est en lui. Et la force nous est donnée quand on le regarde. Je l'ai vraiment réalisé un jour d'une façon très forte ici, au quand Maranatha, c'est comme si j'avais vu le Seigneur, dans un moment d'extrême faiblesse, me regarder et me dire ce qu'il m'avait dit quand j'avais 14 ans, va avec cette force que tu as. Et dans son regard, il y avait cette force qui vous est donnée et qui vous permet de faire face à vos responsabilités, alors que vous vous sentiez arriver à zéro. Va avec cette force que tu as. Nous regardons à lui, nous ne regardons pas à notre misère. Et voyez-vous, c'est justement notre force, c'est de sentir notre faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Hein. C'est cela que dit l'apôtre Paul. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que quand je suis faible, qu'est-ce que je dois faire? Regarder à servir. Et c'est ce simple regard qui fait ma force. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comprenons-le. Vous êtes faible. Regardez au Seigneur. Et vous saurez ce que c'est. Que sa force toute puissante. Il est ressuscité pour notre justification. Dans la résurrection du Christ, j'ai la preuve, j'ai la certitude que Dieu a accepté le sacrifice de son Fils pour moi. Je suis justifié. Je suis tenu pour juste. Et Dieu serait injuste s'il me condamnait. C'est vrai, ça. Le Seigneur a payé mes dettes. Est-ce que le créancier à qui je devais toutes ces dettes a le droit de me réclamer quelque chose à moi? Quand une dette a été payée, même par un autre, est-ce que le créancier peut me redemander quelque chose à moi, le débiteur? Non, c'est fait. Alors, le Seigneur a effacé toutes vos dettes. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Vous êtes juste. Il n'y a point juste, pas même un seul, mais ne sont justes que ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors vous êtes juste en Jésus-Christ. Croyez-le. Et alors conduisez-vous comme des justes. Si vous avez tous ces titres, eh bien manifestez ses caractères. Comment? En regardant celui qui vous a sauvé. Et maintenant, ce sang du Christ qui a été versé est là pour purifier votre conscience. C'est toujours, quand vous voyez votre misère, vous regardez à la croix. Le sang du Christ est là. Et Dieu voit le sang. Et il ne peut pas vous condamner. Il ne peut pas vous abandonner. Il voit le sang, il ne peut qu'accomplir sa promesse, réaliser sa promesse pour Jésus-Christ. Il veut que son Fils puisse jouir du travail de son âme. Au fond, le Père désirait des fils et des filles dans sa maison. Le Fils, connaissant ce désir, se met à la disposition du Père pour réaliser ce que le Père désire. Et quand le moment vient, eh bien vous voyez le Fils sur la terre qui cherche à accomplir la volonté de son Père. Et il l'a fait parfaitement. Alors maintenant, donnez la joie au Seigneur. La joie de voir des hommes et des femmes qui ne doutent plus de son amour. Des hommes et des femmes qui ne regardent plus à eux-mêmes, à ce qu'ils sont, mais qui regardent à ce qu'il a fait, non pas à ce que vous avez pu faire ou à ce que vous faites encore maintenant. Perdez-vous entièrement dans le Seigneur. Car déjà, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous êtes déjà aux yeux de Dieu comme glorifiés. Le Seigneur Jésus a été glorifié. Et si nous sommes en lui, nous sommes déjà glorifiés. Prenez cette position. Croyez que vous êtes déjà glorifiés. Et vous expérimenterez cette joie que vous ne connaissiez pas, cette paix que le monde ne pouvait pas vous donner. Nous allons nous arrêter et nombre des pécheurs. Nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ô Dieu, révèle-nous maintenant quelles sont ces œuvres que tu attends que nous pratiquions. Non pas les œuvres que les conducteurs spirituels nous disent peut-être d'accomplir, mais les œuvres que toi, tu as préparées pour chacun de nous. Car tu as un dessein pour chacun de nous. Tu as un plan. Et tu voudrais que nous sachions ce que tu attends de nous. C'est tellement merveilleux de savoir maintenant que notre Sauveur est devenu notre Seigneur et que nous n'avons pas d'autre Seigneur. Autrefois, d'autres Seigneurs ont dominé sur nous. Mais maintenant, c'est par toi seul que nous ferons mention de ton nom. Donne-nous ce rapport immédiat avec toi. Nous qui croyons qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais qu'il y a un seul médiateur, Jésus-Christ. Que nous soyons réellement, dès ce soir et comme jamais, en lui, jouissant pleinement de la position que nous avons aux yeux de Dieu. Que nous puissions te donner cette joie, ô Père, cette joie d'être des hommes heureux, que tu as rendu heureux par l'œuvre de Jésus-Christ, et qui croient à la perfection absolue de cette œuvre. Tout est accompli. Ô Dieu, montre-nous ce que nous sommes maintenant à tes yeux. Et que ce soir, il y ait dans nos cœurs et sous nos tentes des chants de louange, et que le ciel et la terre se rejoignent. Et que cette nuit, nous la passions déjà dans le sein du Père qui nous attend.